Allô, voici votre bulletin du vendredi 21 mars 2025. D'ici 2 mois, le centre d'escalade Délire à Beauport fermera ses portes. Le propriétaire du terrain Mixdev l'expulse pour construire des condos haut de gamme et un stationnement. Une fermeture qui inquiète le milieu de la compétition de l'escalade en voie, puisqu'il s'agit du seul lieu à Québec à accueillir de tels événements sportifs. Ce centre est aussi un espace de prédilection pour les athlètes de la région. Pour plus de détails, consultez le reportage d'Alice Zanetta dans la section Actualité du CKIAFM.org. Une manifestation pour dénoncer la fermeture définitive du Bureau d'aide juridique en immigration de Québec a lieu dimanche midi devant l'Assemblée nationale. Selon les organisateurs, plus de 200 personnes se retrouveront sans service juridique ou représentation légale dans l'Est du Québec suite à cette fermeture. Le Carrefour d'action interculturelle invite les personnes qui désirent témoigner ou partager leurs ressentis quant aux répercussions qu'aura cette fermeture à écrire à l'adresse anaïs.ct@cai-québec.org. Il est possible de témoigner de façon anonyme. L'incontournable défilé de la Saint-Patrick revient demain avec ses couleurs et sa musique. Le coup d'envoi sera donné à 14 heures au coin des rues Cartier et Fraser. Les quelques 1000 participants animeront d'abord la Grande Allée et la rue Saint-Louis avant de passer devant le château Frontenac où aura lieu le clou du spectacle. Une assemblée publique de consultation concernant le projet de requalification de l'îlot Dorchester aura lieu le jeudi 10 avril à compter de 19 heures en mode hybride. Lors de cette assemblée publique, les citoyens et citoyennes auront l'occasion de poser leurs questions et de soumettre leurs commentaires auprès des personnes ressources de la ville. Pour s'inscrire, consulter la documentation et les détails de l'activité, rendez-vous sur ville.quebec.qc.ca/consultation. L'organisme Valoriste Québec tiendra une assemblée générale extraordinaire le lundi 24 mars à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec, située au 155 boulevard Charest. Cette assemblée est dédiée spécifiquement à la mise à jour des règlements généraux de l'organisme et aura lieu tout juste avant l'assemblée générale annuelle prévue le même soir. Il est toujours possible de s'impliquer à Valoriste Québec en présentant votre candidature au conseil d'administration. Devenu un rendez-vous incontournable de la scène littéraire de Québec, la Nuit de la poésie, qui a lieu samedi à la Maison de la littérature, souligne cette année son 15e anniversaire. Cette année, 25 voix établies et de la relève offriront une variété de styles et de tons. L'événement est en accès libre de 19h30 à minuit, au 40 rue Saint-Stanislas. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Cela vaudrait la peine de construire de manière encore plus réfléchie que je ne le fis en s'interrogeant, par exemple, sur le type d'ancrage qu'une porte, une fenêtre, une cave ou un grenier ont dans la nature de l'homme. Il se pourrait bien, alors, que nous n'érigerions jamais la moindre superstructure tant que nous n'aurions pas trouvé une raison de le faire qui fût meilleure que même nos besoins temporels. Il y a un peu de la même convenance dans l'action d'un homme qui construit sa maison que dans celle d'un oiseau qui fabrique son nid. Qui sait si, comme partout chantent les oiseaux engagés dans ce genre de travaux, les hommes aussi ne verraient pas leurs facultés poétiques universellement développées s'ils bâtissaient leur logis de leurs propres mains et se procuraient leur nourriture pour eux-mêmes et leur famille avec ce qu'il convient de simplicité et d'honnêteté. Mais hélas, nous agissons comme les oiseaux vachés et les coucous qui pondent leurs œufs dans des nids que d'autres oiseaux ont construits et négaient l'âme d'aucun promeneur avec leur caquetage et piaillement cacophonique. Devrons-nous à jamais abandonner la joie de la construction aux charpentiers? Que pèse l'architecture dans le vécu de la masse des hommes? Au cours de toutes mes déambulations, je n'ai jamais rencontré d'homme occupé à une tâche aussi simple et naturelle que la construction de sa propre maison. Nous appartenons à la communauté. Le tailleur n'est pas seul à ne compter que pour un neuvième d'homme. Il en va de même du pasteur, du marchand et du fermier. Jusqu'où pousserons-nous cette division du travail? Et quel but sert-elle en dernière analyse? À ce compte-là, il ne fait aucun doute que quelqu'un d'autre pourrait penser à ma place, mais il n'en est pour autant désirable qu'il le fasse au point que je cesse moi-même de penser pour moi-même.
De nourrir la pensée, je veux chemin nouveau à défricher, je veux des lunes d'été à raconter, je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer, j'ai devant moi la vie.
Bienvenue en toute simplicité. Alors aujourd'hui, on va parler de Socrate avec notre philosophe invité régulier, Jacques Sénécal. Mais avant ça, j'ai quelques lectures, quelques annonces. Pour ceux qui s'intéressent, on a un café philosophique ce soir à la librairie La Liberté. Il s'agit de vous inscrire, juste téléphoner à la librairie, donner votre nom. Je pense aussi qu'il y a un café philo, en tout cas pour ceux qui sont dans ce coin-là, à Trois-Rivières. Là, genre, je pourrais préciser ça avec Jacques Sénécal. Il y a un café philo à Trois-Rivières qui s'en vient. Aussi, il y a le rapport annuel de l'ONU sur le bonheur. Ça s'appelle le World Happiness Report qui vient d'être publié, là, le rapport 2025, mardi dernier. C'est toujours très intéressant. En fin de compte, c'est une image là, un peu pour faire un peu de la pub, là, le rapport sur le bonheur, mais on pourrait plutôt appeler ça le rapport sur la qualité de vie. Et puis toutes les pays, toutes les nations sont classées. Il y a une grille d'analyse, puis on nous explique comment on en arrive là. Alors, dans le premier, depuis plusieurs années, c'est la Finlande, qui est incroyable. La Finlande, juste pour vous donner un exemple, ont réglé le problème d'itinérance. En Finlande, il n'y a aucun itinérant. Tout le monde est logé. Ça a repris quelques décennies. Ils ont décidé qu'ils éliminaient l'itinérance. Puis c'est dans beaucoup de choses comme ça. Alors, la Finlande est dans les premiers. Le Canada a perdu il a descendu dans l'échelle un peu, mais on est 22e, je pense. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, juste à écrire dans Google World Happiness Report 2025, c'est quand même un gros rapport, là, d'environ 300 pages, puis il y a toutes sortes de textes, c'est vraiment bien, c'est bien fait. ensuite de ça, ben j'ai continué ma lecture du Philo Magazine, toujours le dernier qui était en kiosque, que je vous parlais. Puis le texte, c'est pas le texte, mais le titre du magazine, « Qu'est-ce qu'un rapport sain à l'argent? » Alors, il y a une partie qui peut intéresser là, les simplicitaires, cette section-là. Entre autres, il y a un texte, une question de confiance. C'est un directeur, le gouverneur de la Banque de France et une philosophe dialogue sur la sobriété, l'éloge de la dette. Puis la dame qui est Madame Nathalie Sartou-Lajus, elle dit « Néanmoins, je ne suis pas à l'aise avec le concept d'austérité. Je trouve que c'est une autre version de la croissance illimitée. On reconnaît l'existence du désir ou la volonté de consommer toujours plus, mais on les bride. C'est ce que je comprends dans l'exigence de l'austérité. Elle est punitive. Aussi, je lui fais faire le concept de sobriété ou de sobriété choisie, dont d'ailleurs le pape François fait usage dans son encyclique Laudato si. La sobriété n'est pas l'excès ni la cesse, mais la proposition de sortir du capitalisme addictif. J'observe que certains militants écologiques, dans une tentation toujours dangereuse de pureté, sont au bord du burn-out, car une telle exigence d'ascétisme finit par vous faire craquer. La sobriété est compatible avec les moments de dépenses salutaires et joyeuses. Le terme philosophique pour désigner cela serait la tempérance ou encore la vertu de modération. Il ne s'agit pas, selon moi, de réduire nos désirs, mais de désirer mieux, par exemple, par une intensification de nos relations aux autres, à notre milieu de vie. Je ne crois pas que l'austérité soit un remède aux crises que nous traversons. Alors, ça, on en parle souvent, d'ailleurs, on va probablement en parler aujourd'hui avec Socrate, l'idée de la tempérance, de l'équilibre. On parle beaucoup de simplicité volontaire à l'émission. En tout cas, je trouve que ça rejoint ce qu'on dit ici à l'émission. Alors, dans le dernier Philosophie Magazine. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent aussi, il y a le Salon de la forêt à l'Université Laval en fin de semaine. Il y a des conférences. Ça doit ressembler un peu à la fête des semences, mais plus orienté vers la sylviculture. peut-être moins, en tout cas, moi, ça me rejoint un peu moins, mais je suis curieux, je vais probablement aller faire un tour. Il y a des conférences puis des kiosques. Ensuite, ben, il y a dans Le Devoir, là, il y a quelque chose que j'ai retenu dans Le Devoir, c'est surtout dans Le Devoir d'aujourd'hui. On parle de la Rainette, opération sauvetage d'habitat de la Rainette, la ville de Longueuil. A élaboré un projet sans précédent pour terminer un tronçon routier tout en protégeant des milieux de vie humide. Aux prises avec les dégâts des travaux routiers qui ont détruit un habitat essentiel à la survie de la Rainette Faugrillon, la ville de Longueuil terminera le chantier, mais en aménageant l'infrastructure de façon à protéger ce petit batracien de plus en plus menacé en raison de la disparition des milieux humides. Alors on dit un peu plus loin, la Rainette Faugrillon a déjà perdu plus de 90 % de son habitat au Québec, surtout en raison de l'étalement urbain. Selon un bilan des menaces datées de mars 2021 et rédigées par des experts du gouvernement, moins de 25 % des populations présentes dans la province seront en mesure de survivre, à moins qu'un frein soit mis aux menaces grandissantes. Et quand on veut, la ville de Longueuil, il y a eu beaucoup de pression, puis il y a un aménagement qu'elle a fait pour permettre aux grillons de traverser. Là, c'est un milieu humide, et puis ils les ont connectés. Alors, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, page A8. Il y a aussi dans Le Devoir d'aujourd'hui, le texte de la chronique de José Blanchette, l'habituel de José Blanchette, une réflexion sur l'espoir. Elle parle d'un livre qui a été écrit sur espoir. Ça aussi, on en a parlé. Les philosophes disent qu'il faut faire attention avec le concept d'espoir, mais plus d'être orienté vers la confiance que l'espoir, parce qu'on ne peut pas savoir là, qu'est-ce qui nous attend. Mais comme elle nous dit dans son texte, qu'elle a besoin d'espoir. Alors, c'est le titre de son texte, c'est « L'espoir ciboire, fragile comme un printemps ». D'ailleurs, en passant, aujourd'hui, c'est le printemps. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on est avec Jacques Sénécal pour parler de Socrate.
Débute où la fin commence, au gré de quelques confidences, tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. La morale brille par son absence, les dictats sont sans conséquence, tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Les désirs ne sont plus souffrance, ils sont maintenus à distance. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Si j'ai le culte de la performance, pour qui, pourquoi se faire violence? Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. On croit choisir son existence, c'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Son existence, c'est elle qui impose sa présence. Tout n'est certes plus comme avant, quand le futur se conjugue au présent. Au présent.
Bonjour Jacques Sénécal.
Bonjour Jacques.
Ça va bien?
Effectivement.
Oui. En passant, j'ai parlé du café philo à Trois-Rivières. C'est quand au juste votre café philo?
C'est mardi le 25 à 16h. Ça va être notre 198e café philo.
Wow. Wow.
On a commencé en fait en janvier 2012.
Wow.
À tous les 15 jours, on se rencontre. Pendant la pandémie, mais ça se faisait par visioconférence. On n'a jamais arrêté.
Wow.
Que c'est une bonne gang. Là. On se retrouve 25, 26, des fois 30. Il y a des fidèles. Il y en a qui sont là tout le temps. Puis c'est bien agréable.
Puis pour ceux qui s'intéresseraient là, d'aller à votre café philo, c'est à quel endroit à Trois-Rivières?
Bien, c'est au restaurant normandin, mais il y en a deux restaurants normandins. Puis les deux restaurants normandins sont sur la rue des Récollets, les
oh,
deux.
OK. Wow.
Celui où on se retrouve régulièrement, c'est la rue des Récollets et la rue des Forges, presque au coin.
Ah, OK. OK. Plus dans le centre-ville.
Oui, bien, c'est en banlieue, mais c'est... C'est une banlieue pas mal construite, là.
T'sais. Oui, oui, oui.
Il y a des centres d'achat, puis... Je pense que l'adresse, c'est 1350 rue de Récollet.
OK. Au restaurant normandais, en tout cas. Pour ceux qui s'intéressent, mardi prochain, à 19h,
à Trois-Rivières. À
16h. À 16h, oh!
C'est dans l'après-midi, on se okay. Là après.
OK. À 16h,
oh! On arrive là vers 4h, on discute. Jusqu'à 6h moins quart à peu près. Puis là, ben on mange. Puis il y en a toujours une quinzaine qui reste. Là. On continue le débat, finalement. T'sais.
OK. Alors...
Mais avec les règles en moins. T'sais.
Alors...
C'est bien agréable. C'est une rencontre d'amis, dans le fond. C'est bien le fun.
Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui veulent participer...
Il y a toujours des nouvelles personnes. Il y a toujours des nouveaux personnages. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui viennent... La jeune génération est représentée. C'est quand même intéressant parce que les sujets qu'on aborde, c'est des sujets sérieux, profonds, puis ils sont toujours très proches de l'actualité. Mais on a tendance, bien entendu, puisqu'on est dans un café philo, on a tendance à dépasser nos propres individualités puis aller saisir l'essentiel des choses.
Oui, oui, oui. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Socrate. Alors, pour ceux qui s'intéressent, ouais. Mardi prochain, Café Philo, comme je disais, là, à Trois-Rivières.
Ouais,
puis ce soir, ceux qui s'intéressent, il y en a un à Québec, à la librairie La Liberté. Alors,
ouais.
Là, on va aller à notre sujet d'aujourd'hui, qui est Socrate.
Oui, c'est ça, Socrate. Socrate, pour ceux qui sont en philosophie, c'est un peu Jésus pour les chrétiens. Hein. C'est un personnage extraordinaire. Là. C'est un héros tragique, dans le fond. T'sais. Socrate est mort condamné, Jésus est mort condamné. Ou si je suis un bouddhiste, Siddhartha devient pour moi un personnage extraordinaire. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que ces grands personnages-là, Jésus notamment, Socrate, t'sais, on en parle beaucoup, mais on ne connaît pas beaucoup leur vie privée. C'est surtout leur philosophie, ou leur dans le cas de Jésus, c'est sa philosophie aussi, mais c'est sa foi, c'est ce qu'il représente, le Fils de Dieu. Alors que Socrate, lui, il est vraiment à l'origine de la philosophie occidentale. T'sais, il remet tout en cause là, dans ses questions. Il remet tout en cause les grands thèmes comme la vérité, la justice, la beauté, la vertu, la science, la connaissance, etc. Et aussi, bien entendu, ça aussi c'est très important, Socrate a un mode de vie bien particulier. Puis Socrate, c'est l'influenceur de la philosophie en tant que science ou en tant que connaissance ou en tant que théorie, mais c'est aussi un personnage qui a beaucoup influencé un mode de vie particulier, un mode de vie simple, qui s'approcherait peut-être des grandes écoles qu'on appelle les écoles épicuriennes, stoïciennes. D'ailleurs, tous ces grands philosophes-là, Épicure, Épictète, et surtout les grands comme Aristote, Platon, ils ont tous été influencés par Socrate. Et Socrate, un peu comme Jésus aussi, n'a pas écrit. Et il n'a fait que haranguer ses contemporains. Il les interrogeait, il dialoguait avec eux, un peu comme Jésus aussi. Alors, c'est des personnages, en fait, dont on ne connaît pas beaucoup la vie privée. Il y a beaucoup d'interprétations sur ce qu'il est, puis sur ce qu'il a été, puis ses amis, puis sa femme ou ses femmes. On ne connaît pas beaucoup sa vie privée, mais on a beaucoup, beaucoup extirpé l'essentiel là, de son propos philosophique qui... Parce que Socrate est celui qui remet tout en question. Socrate, c'est celui qui sait, mais qui sait qu'il ne sait rien. Il y a une sorte d'ironie chez Socrate qui lui permettait justement d'interroger ses contemporains et de faire accoucher les idées qui sont en elle, qui sont chez ces personnes-là, ce qu'on appelle la maïeutique. Alors Socrate, bien entendu, c'est un très grand personnage, là. Pour les philosophes, c'est la base. J'écoutais Richard Desjardins tout à l'heure, puis Richard Desjardins parlait de la construction d'une maison, mais Socrate, c'est un peu la fondation, dans le fond, la fondation d'une immense construction qui est la connaissance humaine en général, et plus particulièrement les sciences plus pointues, plus spécialisées. Parce que toutes ces sciences-là, si elles ont évolué, c'est parce qu'elles ont été sceptiques. Elles ont traîné le doute avec elles. Et justement, Socrate, c'est celui qui pense, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui raisonne, c'est celui qui repose des questions, c'est celui qui tourne, qui renverse les propos reçus, les idées reçues, mais toujours avec le doute. Toujours avec cette espèce d'esprit critique là, qui est typique d'une connaissance qui se veut orientée vers la vérité. T'sais. Alors, quand on lit Platon, bien, on se rend compte que Socrate s'est prononcé sur la vérité, s'est prononcé sur la justice, s'est prononcé sur la vengeance, s'est prononcé sur la complaisance, sur la beauté, sur la vertu. Quand il dit « nul », nul ne fait du mal, nul n'est méchant volontairement. Ça veut donc dire que si tu te connais toi-même, mais tu peux, avec cette connaissance-là, faire le mal en tout état. Faire le mal, quand tu fais le mal, dans le fond, c'est parce que tu n'as pas suivi, tu n'es pas connu. Tu as laissé de côté la connaissance. Tu t'es tombé dans le dalou de l'ignorance. Alors, il y a quand même des choses super intéressantes chez Platon, puisqu'on retrouve toute la philosophie du monde occidental dans ses propos. Quoique, je le dis, je le répète, il n'a rien écrit, mais plusieurs ont écrit sur lui, et plusieurs ont été des contemporains de Socrate. Et ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu prendre la ciguë à la toute fin de sa vie. Et Socrate en était un qui a énormément influencé le monde occidental et notamment les philosophies que j'appellerais, moi, les philosophies dualistes. C'est-à-dire celles qui considèrent que l'homme, l'être humain, est fait d'un corps et d'une âme. Alors, chez Socrate, il y avait cette espèce de démon en lui, cette espèce d'esprit en lui qui se séparait de son corps et on ne savait pas à la mort où pouvait aller cette espèce de diamond, cette espèce de démon, cette espèce d'esprit. Alors, c'est donc dire que Socrate est vraiment à l'origine de toutes nos interrogations, nos questionnements.
Oui, puis il est un peu difficile, c'est nébuleux, c'est comme... D'ailleurs, lui, Socrate ne croyait pas à l'écriture, il voyait que Platon qui l'était, et lui, il disait, non, tu peux pas, la philosophie, c'est en personne. Puis, il semblerait qu'à Athènes, Socrate, il était célèbre, parce que les gens, quand ils rencontraient Socrate, ils étaient transformés. Il disait, il appelait ses collègues philosophes l'appelaient l'accoucheur d'âme.
Oui, c'est ça la maïeutique, dans le fond. Dans son propos, dans son dialogue, il arrivait à faire accoucher les idées que les personnes avaient. Et ces idées-là résidaient dans une âme qui avait déjà contemplé la vérité dans une vie antérieure. Alors, chez Platon et chez Aristote, il existe donc une vie qui n'est pas celle de la Terre, qui est d'un autre monde. Et ça a beaucoup, beaucoup influencé la philosophie occidentale, puisqu'on retrouve ça au Moyen-Âge, on retrouve ça dans les religions. Il faut attendre presque le 17e ou 18e siècle pour que la philosophie dualiste soit remise en question. Je pense par exemple à Montaigne, ou je pense à Spinoza, où on doute très fort sur la possibilité d'avoir une entité immatérielle distincte du corps. Socrate l'affirme, mais ses contemporains, ou presque ses contemporains, le contestent. Alors, on a donc un personnage nébuleux, effectivement, Jacques, tu as absolument raison, parce que il est rempli de paradoxes. Il est rempli de paradoxes. Quand il parle de la justice, il parle autant de l'injustice. Quand il parle de la beauté, il parle autant de la laideur. Autrement dit, les propos, ou même, personnellement, le réel, les réalités ont leur différence, ont leur contradiction. Alors, il s'est vautré un peu dans ces paradoxes-là, et dans ce cas-là, à cause de ça, Socrate est resté un personnage un peu nébuleux, difficile à saisir. Et c'est pourquoi il y a d'ailleurs énormément d'interprétations différentes. Il y a le Socrate de Platon, il y a le Socrate de Xénophon, il y a le Socrate d'Aristote, il y a le Socrate de Hegel, il y a le Socrate de Nietzsche, il y a le Socrate de tous ceux qui l'ont lu et qui l'ont interprété à leur manière, parce qu'il est interprétable. Et la lecture qu'on fait de ses propos, qu'il n'a jamais écrit d'ailleurs, ben parce qu'ils sont rapportés par d'autres, par des disciples, alors surgissent toujours un questionnement. Mais c'est peut-être ça qu'il voulait, Socrate. Il voulait accoucher. Il voulait qu'on accouche des idées. Il voulait que... Le but de Socrate, dans le fond, c'était que la connaissance perce. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait un courant philosophique à Athènes qui s'appelle le sophisme. Et les sophistes, qui étaient de bons philosophes, c'était surtout des orateurs. C'était surtout des personnes qui avaient le don de convaincre, et particulièrement de convaincre les jeunes pour qu'ils arrivent à devenir de bons avocats ou de bons politiciens qui se défendent bien, qui se défendent très bien sur la tribune. Peu importe la vérité, du moment que tu te défends bien, c'est parfait. Peu importe la vérité, du moment que tu es efficace, c'est ça qui compte. Socrate était complètement contre cette manière de dire les choses, cette manière de faire les choses. Pour lui, c'était la vérité qu'il fallait trouver. Et la vérité juste. C'est pourquoi il posait beaucoup de questions à ses disciples, à ses contemporains, pour arriver justement non pas à bien paraître, mais à bien saisir les choses et de vivre en conséquence.
Oui, parce qu'il parlait de Socrate, il disait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est parce que lui, il fallait qu'on trouve la vérité en dedans de nous.
Oui, c'est ça.
Comme je disais un extrait là, de Platon, là, quand il parle de Gorgias, quand il parle de justice, d'injustice, en fait, puis Socrate, il dit, la pire calamité, c'est l'injustice. Mais l'autre, il dit, ouais, c'est terrible de subir l'injustice. Mais Socrate, il dit, non, subir l'injustice, c'est une calamité. Mais faire l'injustice, c'est encore pire. Il dit, j'aime mieux subir l'injustice que moi-même. Alors, puis ça, pour en arriver à ça, c'est parce que il dit, si on fouille en dedans de nous, c'est ça qu'on découvre. On découvre les vertus, dans le fond.
Ouais, mais dans le cas de... dans les écrits de Platon, qui a été un disciple de Socrate, elles sont d'une grande crédibilité, ces idées. Bien entendu, on parle même d'un platonisme, on parle même d'une philosophie de Platon, mais qui est très, très, très inspirée de celle de Socrate. Mais Platon, comme Socrate, mais particulièrement Platon, il est vraiment à l'origine d'une vision d'un monde qui se divise en deux. Il y a un monde parfait, il y a un monde idéal, il y a un monde d'idées. Un monde d'idées. Et c'est ce monde d'idées qui est le monde de la vérité. Alors que nous, sur Terre, nous vivons l'errance, l'erreur, l'ignorance. On cherche la vérité. C'est le monde de la mortalité, alors que le monde idéal, il est immortel. Alors, ces deux mondes-là ont eu une influence énorme sur les philosophies qui ont succédé à celle de Platon. Que ce soit chez l'islam même, que ce soit chez les contemporains des chrétiens, et plus particulièrement ceux du siècle des Lumières, qui ont remis en question justement cette espèce de dualisme-là. Mais encore aujourd'hui, Jacques, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on pense encore à ça. C'est encore beaucoup de monde. Moi, quand j'ai interrogé mes élèves pour savoir comment était constitué l'être humain, la majorité, je dirais à 98%, ils écrivaient que l'homme était constitué de deux substances distinctes. Alors, puis on était dans les années 90, là, dans les années 2000. Alors, ça veut donc dire que jusqu'à nos jours, on a conservé ce stéréotype-là, cette vision inscrite presque dans notre ADN et qui nous vient de Socrate et de Platon particulièrement.
Jacques, on va prendre une pause musicale.
Oui.
Puis on continue avec Socrate.
D'accord. Thank you.
C'était Nathalie Choquette de Va Pensiero. Ça fait partie de l'opéra de Verdi. C'est très beau. Ensuite, avant ça, on avait eu Jean-Marc Corel, Quand le futur se conjugue au présent. Puis au tout début, Richard Séguin, de son album Le Retour à Walden, c'était Devant moi la vie. Puis au début de l'émission, ben, je lisais un extrait, c'était pas Richard Desjardins, genre. C'était un extrait de Thoreau, Henri-David Thoreau de Walden. Alors, Jacques, on poursuit avec Socrate.
Oui, certainement. Socrate, qui est un grand personnage, bon, tout le monde le sait, important en philosophie, le fondateur, finalement, même s'il y a eu des pré-socratiques, c'est quand même Socrate qui a orienté les questions vers l'être humain. Qui il est-il? Qui je suis? Et comment arrive-t-on à se connaître soi-même? Quand Socrate dit « connais-toi toi-même », c'est pas toi-même en tant qu'ego, c'est toi-même en tant qu'humain. Et donc, une connaissance universelle qui est impliquée dans cette connaissance-là. Alors, ça, c'est très important chez Socrate. Mais il y a aussi d'autres choses de très importantes. C'est que Socrate a parlé de l'amour. Et il a été beaucoup influencé par Diotime, une prêtresse, une femme, en fait. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, les femmes, les déesses, les prêtresses avaient un rapport particulier, un privilège avec les déesses et les dieux, les forces de la nature. Alors, Socrate s'en inspirait. Puis quand il parlait de l'amour, mais il parlait d'une élévation de l'esprit. Tu commences par aimer les choses ordinaires, belles, ensuite les idées, les belles idées, ensuite les belles lois, puis ensuite la beauté comme telle, le vrai, t'aimes le vrai, t'aimes la vérité. Là, on est rendu dans une espèce de monde idéal où tout est vrai, tout est beau, tout est juste, tout est parfait. Alors, il faut arriver à cet amour-là. Cet amour-là, c'est une sorte de rédemption pour Socrate. Ça, c'est très important. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas parler du mode de vie lui-même de Socrate, parce que Socrate a eu des disciples, et les disciples ont parlé comme lui, ont pensé comme lui, mais ont vécu comme lui. Je pense à Antisthène, par exemple, qui a eu une énorme influence sur Diogène, qui a vécu de manière extrêmement pauvre, extrêmement frugale. C'est une extrême, bien entendu, mais je pense à tous ceux qui ont influencé par la suite, les stoïciens, les épicuriens, qui ont voulu justement orienter leur vie sur quelque chose de simple, de bien choisi, de ce qu'on appelle aujourd'hui la simplicité volontaire, justement. Ça s'est construit à cette époque-là. Ça s'est mis en branle avec Socrate. Alors, c'est pour ça que Socrate est un personnage super important, autant pour les idées qui ont évolué, bien entendu, jusqu'aux sciences les plus avancées. Et il est aussi à l'origine d'un mode de vie qui va à l'encontre même de notre vie de consommateur actuel. Socrate n'aurait pas consommé comme on consomme. Il aurait été, j'en suis convaincu, parce qu'il était contre le sophisme, il aurait été contre les apparences, contre la fraude, contre ce qu'on appelle l'efficacité, puis les performances de la publicité. C'est entendu que Socrate se serait inscrit contre tout ça. Parce que ce qu'il cherchait, dans le fond, c'est un bonheur éclairé par la vérité, un bonheur éclairé par ce fameux ciel intelligible, parfait, où existait le beau et le bien et le parfait. Alors, le mode de vie, ici, il faut bien le comprendre, chez Socrate, c'est un mode de vie qui doit être simple, humain, lié aux autres, constamment, puisque sa femme ne vivait presque toujours à l'extérieur. Il était presque toujours avec des amis ou des ennemis. Enfin, il était toujours en interrelation avec les autres. Et sans doute, il n'y a pas de grand texte là-dessus, mais sans doute qu'il a dû avoir aussi une admiration pour la grande nature dans laquelle les Athéniens en général vivaient. Ça, c'est entendu.
Et tantôt, justement, pour revenir à Thoreau, au début, Thoreau était très inspiré des philosophes d'Antiquité, puis notamment Socrate.
Ben, oui.
Puis c'est ça qu'il dit, là. Il dit « Qui sait si, comme partout chantent les oiseaux engagés dans ce genre de travaux, les hommes aussi ne verraient pas leurs facultés poétiques universellement développées s'ils bâtissaient leur logis de leurs propres mains et se procuraient leur nourriture par eux-mêmes et pour eux-mêmes et leur famille avec ce qu'il convient de simplicité et d'honnêteté. » C'est très socratique, tu sais.
Oui, exactement. Puis voyez-vous, ce mode de vie-là, là, qui nous vient de presque 500 ans, 400 ans avant Jésus-Christ, n'a jamais été laissé de côté. On l'a toujours vu appliquer un peu partout, dans certaines écoles, jusqu'à nos jours, jusqu'à Thoreau, justement, il en parle, Gandhi, d'autres de notre génération, de la génération des plus jeunes, qui se rendent compte que la Terre est en train de se faire dévaster, puis qu'il faut la respecter davantage, et donc de vivre en conséquence. Alors, ce long cheminement-là nous vient en grande partie de certains personnages. Ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Lao Tzu, ça peut être Confucius, mais dans ce cas-ci, c'est Socrate, qui ont toujours vécu d'une manière simple et respectueuse de l'environnement dans lequel ils étaient, respectueuse des êtres humains qui étaient là et de la nature qui s'y trouvait. Ça, c'est entendu. Chez ces grands personnages-là, on retrouve toujours à peu près la même formule, le même amour, l'amour des autres et l'amour de la nature, donc le respect.
Mais en même temps, comme je disais aussi dans le Philosophie Magazine, c'était pas la misère qui prônait Socrate. Au contraire, c'est qu'il disait que la vie va te procurer ce que tu as besoin. Tu vis dans la simplicité, honnêtement. Puis Socrate, c'est un bon vivant, là. C'était
ben
pas
oui,
quelqu'un
ben oui,
qui
non,
qui était austère,
là. Il était pas pauvre, là. Il avait été hoplite, il avait été soldat. Puis quand tu deviens soldat, c'est parce que tu fais partie d'une classe assez riche. Mais il ne vivait pas comme un riche. C'était pas un indigent, Socrate.
Oui, c'est ça. C'était comme une forme... C'est ça que je disais tantôt, le tempérance, là, un entre-deux, un équilibre là, qui incarnait.
C'est ça. C'est un personnage qu'il faudrait revoir par d'autres, bien entendu, parce que lui-même, il n'a rien écrit, mais s'en inspirer constamment, parce qu'il est inspirant, effectivement, et il sera toujours inspirant. Il le représente, comme d'autres personnages, bien entendu, dans le monde, il représente un peu l'essentiel de ce que c'est qu'un être humain, puis cet être humain-là se fait respectueux des autres et de la nature, puis vit d'une manière simple pour que cette vie soit agréable, heureuse, éclairée par la vérité. Ça, je pense que c'est un exemple. Et cet exemple-là devrait rentrer dans toutes les maisons et devrait inspirer toutes les générations.
Puis il était très... c'est quand même spécial, là, l'apologie de Socrate, là, son procès. Il était condamné là, par les Athéniens parce qu'on jugeait qu'il corrompait la jeunesse. Puis ses disciples sont... Parce que là, ils ont dit, tu as le choix, soit que tu te suicides ou c'est nous qu'on va t'exécuter. Puis Socrate avait choisi de boire la ciguë. Puis ses disciples étaient venus le voir pour dire, ben pourquoi tu te sauves pas? Ça n'a pas de bon sens.
Non,
ça a pas de... Puis il était très... c'est comme surprenant, là. C'était important de respecter la loi, puis ça, oui. Il était condamné, oui. Puis bon...
Oui, d'autant plus que cette loi-là, il avait battu pour qu'elle s'applique. Puis ça s'est appliqué effectivement, mais c'est lui qui en a été victime. Par erreur, bien entendu, parce qu'il corrompt. On disait qu'il était corrupteur de la jeunesse, mais dans le fond, il ne faisait que inculquer chez les jeunes l'esprit critique. T'sais. Comment les remettre en question, comment remettre les choses en question, comment voir les idées reçues, comment les interpréter, comment les renverser. En fait, c'était insidieux ce qu'il faisait, mais ce n'était pas corrompre la jeunesse. Mais si Descartes a accepté le verdict, c'est parce qu'il voulait être cohérent avec ses propres idées, bien entendu. Puis aussi, en même temps, ça c'est très important pour d'autres philosophes, c'est que après la mort, Socrate était convaincu de vivre autre chose.
OK.
Ce qui n'est pas le cas de plusieurs autres philosophes.
Ouais, ouais.
Mais lui en était convaincu.
Ouais.
Puis il y a plusieurs philosophes par la suite qui en ont été convaincus comme lui. T'sais. Ça aussi, c'est... Faut pas oublier que Pythagore, un siècle auparavant, même deux siècles auparavant, avait parlé un peu dans le même sens que Socrate, qu'on était après notre mort, on pourrait redevenir autre chose selon notre propre vie. C'est pas Socrate qui est l'inventeur du dualisme. La vision d'un monde double ou d'une séparation de l'homme entre l'âme immortelle et le corps mortel, c'est une vision qui est pré-socratique, qui venait avant Socrate. Mais Socrate, lui, l'a vécu pour vrai.
Puis il était très serein, apparemment, quand il...
Ouais.
Il était entouré de disciples quand il est décédé. Là.
Oui, c'est, il est entouré
c'est,
de disciples.
C'est empoisonné, puis il parlait avec ses disciples jusqu'à la fin.
C'est ça.
Serein.
Il est en pleine bonne santé, il a parlé. Puis d'ailleurs, c'est un... Dans le Phédon, là, si on veut en savoir plus, on peut lire le Phédon de Platon. Platon n'y était pas. Il n'était pas présent à la mort de Socrate, mais il a quand même écrit sur ce moment-là, selon les témoignages, les principaux témoignages, puis c'est beau. C'est peut-être un des plus beaux textes de Platon.
Puis, c'est-tu ça, l'apologie de Socrate, est-ce que c'est d'autres choses,
oui, c'est autre chose.
Okay.
C'est autre chose, c'est un peu la présentation de Socrate. Alors que le Phédon, c'est vraiment la mort, le Socrate.
OK. Parce que c'est ça, l'apologie de Socrate aussi, c'est là-dedans aussi, il explique qu'il corrompait pas la jeunesse,
qui était en désaccord.
C'est
une vision d'ensemble de Socrate.
Oui.
L'apologie de Socrate. Mais la Phédon, c'est vraiment la dernière scène.
Puis c'est comme l'apologie de Socrate, c'est peut-être un des textes que tu sens que tu es plus proche d'entendre Socrate parler, mais c'est pas Socrate qui l'écrit, c'est aussi Platon qui écrit l'apologie de Socrate.
C'est ça. C'est ça, mais il y a quasiment le 75% de l'œuvre de Platon, c'est une sorte de... tentative, en tout cas, d'imiter de quelle manière Socrate dialoguait. Ces textes sont faits sur un dialogue à peu près comme Socrate les menait lui-même dans sa vie.
Ouais.
Platon a tenté de faire revivre Socrate de cette manière-là.
Il y a même un peu d'humour là-dedans, parce qu'il y a des...
Oui, des
fois, Socrate... Et Platon, il prend... C'est comme des dialogues, là, qu'il note tous les philosophes qui parlent, puis il dit, ah oui, je vais vous dire, Socrate, dans le fond de la salle, il parle pas, il dit que c'est rien.
Oui, mais il y a des philosophes aussi qui sont... je pense à Nietzsche, qui ont eu une interprétation très... négative de Socrate, faut pas l'oublier.
Ah oui, OK.
Mais négative dans ce sens que Socrate est allé tellement loin qu'on qu'on pourrait dire, ça, c'est selon Nietzsche, bien entendu, c'est selon un philosophe, que Socrate aurait défendu ce qu'on appellerait aujourd'hui le nihilisme, c'est-à-dire on vit pour rien.
Okay.
C'est, on peut même l'interpréter jusqu'à ce nihilisme-là. Parce que lui, Nietzsche, il a beaucoup insisté sur la joie de vivre.
Oui. Mais écoute, Jacques, on est rendu à la fin de l'émission, malheureusement.
Oui, ça se passe toujours très vite.
Oui.
Fait qu'on va se revoir la prochaine fois.
Parfait. Alors, merci encore.
Dans un mois
pour
un autre sujet
philosophique. Alors, merci encore à toi, puis bonne semaine à toi, puis à tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine.
C'est parfait. Salut, Jacques.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
En pleine crise économique, vous voulez Mark Carney de votre côté. En tant que gouverneur de la Banque du Canada, il nous a guidés à travers la crise financière mondiale de 2008. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise du Brexit. Et aujourd'hui, il est prêt à tenir tête à Donald Trump et ses tarifs. Les Canadiens sont prêts pour du changement. Mark Carney a le plan pour réduire l'impôt de la classe moyenne, créer des emplois et bâtir l'économie à la croissance la plus rapide du G7. Avec Mark Carney, nous gardons le Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualité locale, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 21 mars 2025. D'ici 2 mois, le centre d'escalade Délire à Beauport fermera ses portes. Le propriétaire du terrain MixDev l'expulse pour construire des condos haut de gamme et un stationnement. Une fermeture qui inquiète le milieu de la compétition de l'escalade en voie, puisqu'il s'agit du seul lieu à Québec à accueillir de tels événements sportifs. Ce centre est aussi un espace de prédilection pour les athlètes de la région. Pour plus de détails, consultez le reportage d'Alice Zanetta dans la section Actualité du CKIAFM.org. Une manifestation pour dénoncer la fermeture définitive du Bureau d'aide juridique en immigration de Québec.